Merci. Donc, merci aux organisateurs de donner l'opportunité de vous présenter une partie de mon travail. Je tenais aussi à remercier l'ensemble des intervenants qui j'ai vraiment été très intéressé par l'ensemble des présentations depuis ce matin. J'ai trouvé ça très, très inspirant. Et d'inspiration, justement, il va en être question dans cet exposé. Je vais vous présenter ce que j'ai réalisé sur le thème du compostage. Avec l'invention d'un nouvel appareil de compostage, un nouveau composteur qu'on appelle le Compostou, l'invention d'une nouvelle méthode de compostage et l'invention d'un nouveau modèle économique également pour le développement du compostage partagé. Le point clé que je vais essayer de développer, alors, vous savez, maintenant il faut toujours être très très rapide, hein, c'est ma thèse en 180 secondes, etc. Donc là, je vais essayer de vous présenter le Compostou en 1500 secondes, pas une de plus. À vos chronos. Si on regarde le fonctionnement d'un composteur classique, que l'on va appeler ici un composteur chaud ou de haute énergie, si on regarde ce qui se passe en coupe à l'intérieur de ce composteur, pour être très très schématique, hein, on ouvre la trappe par le haut, on dépose de la matière organique. 90% des utilisateurs ignorent qu'il faut équilibrer avec des apports de matière carbonée. Les déchets de cuisine et de table qui sont très riches en azote et en eau. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de carbone. Chez les utilisateurs un peu mieux avertis, on rajoute un peu de broyat de branche, des feuilles mortes, des morceaux de carton pour essayer d'augmenter un peu la teneur en carbone. Et si on travaille proprement, on doit également brasser profondément ce compost sur au moins 20 cm de profondeur, de manière à apporter de l'oxygène en profondeur. On régule aussi l'humidité. On arrose quand le composteur est trop sec. On assèche avec davantage de matière carbonée quand il est trop humide. Et pour cela, il y a un test assez simple, c'est le test de la poignée. On saisit un petit peu de compost en formation dans sa main. On serre très fortement. Si ça coule, c'est que c'est trop humide, il faut rajouter de la matière sèche. Si ça s'effrite complètement, c'est que c'est trop sec, il faut mouiller. Et l'idéal, c'est une boule qui a un peu la consistance d'une pâte à modeler. Et qui garde sa structure. Donc c'est un taux, ça correspond en fait à un taux d'humidité de compris entre 50 et 70% grand maximum quoi. Au-delà de 70%, on commence à avoir de l'anoxie dans les couches profondes. On a donc le développement de bactéries méthanogènes qui vont engendrer des mauvaises odeurs, hein. Il y a pas mal de composés volatiles malodorants qui sont émis. Et ça dysfonctionne, c'est-à-dire que ces mauvaises odeurs, ces émissions de méthane vont attirer des insectes nuisibles, des mouches, des moucherons. On peut également avoir d'autres animaux comme des rongeurs, notamment le rat, qui a un odorat extrêmement fin, très développé, et qui vont être attirés par ces mauvaises odeurs. Donc si vous avez des problèmes de rongeurs ou de pullulation de mouches ou de moucherons, c'est que c'est trop humide, votre compost, très souvent. Donc il va falloir rajouter de la matière sèche. Dans ce composteur traditionnel, chaud, eh bien, il y a souvent une petite trappe sur le côté latéral qui permet l'extraction du compost, ce qu'il faut en fait jamais faire et jamais utiliser, parce que je crois que les concepteurs de ce type de composteur ignorent encore les lois de la gravité. Et on sait très bien que si on essaye d'extraire du compost mûr qui se trouve sous un amoncellement de biodéchets en décomposition, ben c'est le meilleur moyen pour mélanger finalement le compost mûr avec du compost qui est encore trop jeune. Donc c'est totalement inutile comme pratique. Il vaut mieux en fait laisser monter le niveau de ces biodéchets, de son compost en formation tout en haut. On va laisser une petite marge de 5-10 cm sous la trappe et puis on va fermer. On va condamner le composteur après un bon brassage en profondeur pendant 6 à 12 mois. Et puis là, on pourra extraire toute une charge de compost, hein, plusieurs centaines de litres. Bon, donc ça, c'est le fonctionnement classique et j'ai essayé de faire rapide pour essayer de vous donner aussi en passant quelques petits conseils même pour votre pratique quotidienne. Parce que vraiment, à la fois la science du compostage et puis la connaissance du compostage, le savoir-faire du compostage dans la population générale sont extrêmement faibles, extrêmement lacunaires. Alors moi, quand je me promène en forêt, on a entendu parler de forêt hein, depuis ce matin, je vois aussi un grand composteur à ciel ouvert en fait. Si on analyse un petit peu le fonctionnement d'une hêtraie, on a de la matière organique qui tombe également et qui va se transformer non seulement en compost, mais même encore plus loin, l'étape d'après, ça va se transformer en humus. Et ce qui est la première grande différence avec notre petit composteur domestique, c'est que cette décomposition, elle se fait à froid. Autant dans un composteur de jardin, quand on gère bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez avoir une montée à température de 55, 60, 70 degrés parfois. Et on sait pas, ce ne sont pas des températures qu'on observe en forêt. On n'a jamais vu une litière se mettre à fumer de manière importante en hiver quand il fait très froid, alors que votre tas de compost, votre tas de fumier, c'est même l'étymologie du mot fumier, hein, c'est ce qui fume, c'est ce qui dégage de la vapeur d'eau. Du coup, quand on regarde un peu comment se structure ce composteur à ciel ouvert, il y a deux parties, la futaie qui recharge la litière et puis la litière qui va être la zone de vie des organismes décomposeurs. C'est une zone qui est très importante, la litière, parce qu'elle permet de réguler l'humidité. On a tout un ensemble d'horizons qui ont chacun leur fonction. Et hors circonstances exceptionnelles, généralement, cette litière n'est pas bouleversée, elle n'est pas brassée en profondeur par des moyens mécaniques externes. Ça se débrouille tout seul. Et en fait, c'est la bioturbation, c'est-à-dire le déplacement, l'activité biologique des animaux décomposeurs qui va apporter de l'oxygène dans les couches un petit peu plus profondes, qui va homogénéiser les différents états dégradés de la matière. Et tout doucement, ça se transforme la nécromasse est transformée en humus. Et en fait, la futaie, elle aussi, elle est très importante pour le fonctionnement de ce grand composteur. Tout d'abord parce que elle va réguler l'humidité aussi, elle va protéger également des coups de chaleur. Et puis, elle joue un rôle d'apport cyclique des matières azotées et carbonées. C'est également un exutoire pour les substances humiques. Alors, la grande différence finalement entre ces deux systèmes, vous avez un système qui est linéaire. À gauche, le composteur de jardin, j'alimente en matière organique, c'est transformé avec de l'émission de chaleur qui est due essentiellement à des bactéries. Un composteur de jardin pourrait parfaitement fonctionner sans aucun invertébré, uniquement avec de la transformation bactérienne, marginalement un petit peu d'attaque de champignons sur la fin du processus, et ça suffirait largement. Et d'ailleurs, il y a plus en plus de modèles sur le marché qui se font appeler électro-composteurs ou composteurs électro-rotatifs qui sont totalement hors sol et qui nous proposent finalement de ne travailler plus qu'avec des bactéries. Donc c'est profondément linéaire comme système, alors que la forêt est un système cyclique et les apports sont cycliques et la dégradation est continue. Alors on a bien entendu hein, ce matin. Entendu parler de tout un cortège d'organismes du sol hein, qui vont attaquer chacun ces matières à décomposer. Dans une haie très, c'est comme dans un composteur, c'est pratiquement la même faune hein, en tant que catégorie fonctionnelle qu'on va y trouver. Des invertébrés de petite, moyenne et microscopique taille. On va trouver aussi évidemment des annélides, tout un cortège d'espèces. Et des champignons aussi qui interviennent au début et aussi à la fin du processus pour attaquer les matières les plus résistantes. Alors, dans le compostage traditionnel de haute énergie, le biologiste que je suis est assez insatisfait en fait. Et c'est venu d'une observation personnelle. Lorsque j'ai démarré le compostage, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur Internet et j'ai essayé de prendre quelques conseils qui me semblaient intéressants. Et donc, le premier conseil qui était celui de brasser en profondeur, je l'ai mis en application dans mon composteur de jardin. Et j'ai vu que j'étais en train de couper des vers de terre en deux, j'étais en train d'éparpiller des familles de cloportes et de punaises gendarmes et également de perce-oreilles. Alors, bon, peut-être votre cœur insensible ne va peut-être pas me rejoindre sur cette ligne de que deviennent les bébés cloportes une fois qu'ils sont éjectés de leur marsupium, la petite poche marsupiale de leur mère. Moi, je peux vous le dire, ils meurent, hein, c'est tout. Et pareil pour les perce-oreilles, qu'est-ce qu'ils vont devenir, sachant que on sait, j'ai des collègues à l'IRBI qui étudient bien ces espèces-là, les forficules, les perce-oreilles sont des animaux qui ont une structure. Ils sont familiales importantes, ils sont capables de reconnaître leur descendance, de leur accorder plus de soins à eux qu'à des enfants adoptés. Ils sont aussi capables d'adopter de la progéniture, etc. Enfin, tout un ensemble comme ça de relations comportementales complexes et tout ça complètement éparpillé par ces conseils à la noix que j'ai pu trouver sur les blogs. Et du coup, ça m'a vraiment profondément questionné. Je me suis dit, finalement, est-ce que tu n'es pas en train de faire une énorme bêtise en brassant à fond tout cela? Et tout cela, pourquoi? Pour obtenir cette fameuse belle montée en température dont les guides et maîtres composteurs sont très fiers dans ce pays. Je peux en parler en connaissance puisque je suis depuis quelques mois maître composteur. J'ai été formé selon le référentiel de l'ADEME qui pendant très longtemps donc, a eu comme doctrine ce compostage chaud. Ça vient tout juste de changer la doctrine à l'ADEME. J'ai vu qu'il y a quelqu'un de l'ADEME qui s'est connecté, on pourra peut-être en discuter. Et parce que voilà, c'est pas du tout satisfaisant d'un point de vue biologique, parce qu'évidemment cette phase thermophile qui peut monter à plus de 60 degrés, elle va provoquer une quasi disparition à l'endroit de la zone de chaleur, là où c'est chaud, des champignons, des actinomycètes et puis tout un ensemble de macro-organismes comme des vers de terreau, les Eisenia dont on parlait ce matin ne supportent pas des températures de plus de 40 degrés. Donc ces bestioles sont exclues, elles fuient, elles quittent lorsqu'elles sont capables de partir. Si elles ne peuvent pas partir de la zone de chaleur, elles sont cuites, elles meurent. Et du coup, il va falloir attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que le compost soit recolonisé par de la faune utile. Donc on a une quasi-absence dans la zone de chaleur, dès lors que la température va augmenter à plus de 30 degrés. Hein. 30 degrés semble être vraiment un seuil important pour bon nombre d'espèces mésophiles. Alors, finalement, mon intuition, mon intérêt pour une autre méthode de compostage qui serait un peu au compostage ce que la permaculture est au jardinage ou à la production agricole, c'est-à-dire moins travailler en profondeur, moins remuer tout ça, essayer d'être moins impactant sur le milieu pour maximiser finalement la présence, notamment de la faune utile, sur la durée. Alors, si on essaie de limiter comme ça cette montée en température à pas plus de 40 degrés, par exemple, eh bien là, les praticiens nous disent, et nous mettent en garde, hein, en disant que, attention, l'hygiénisation du compost sera impossible. Bon, arrêtons-nous deux secondes là-dessus et puis on passera vite. De toute façon, l'hygiénisation, elle est impossible dans un composteur de jardin. Ça, c'est une légende urbaine. Quand vous avez un composteur de 400 litres, je vous mets au défi d'hygiéniser parfaitement l'intégralité de ce volume. Vous allez avoir une pasteurisation médiocre au cœur de la masse chaude, mais évidemment, vous ne pourrez jamais stériliser l'intérieur, l'intégralité du compost, quoi. Donc ça, c'est vraiment cette hygiénisation, cette lutte contre les pathogènes par la température, c'est vraiment une légende urbaine en compostage domestique. C'est une autre question, c'est peut-être plus vrai en fait dans le compostage sur plateforme industrielle où on a les moyens technologiques pour avoir des montées très, 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 très importantes à plus de 70 degrés. Et parfois même, ça monte tellement en température que ça prend feu de manière quasi spontanée. Les feux de plateforme industrielle de compostage sont en augmentation. En France, hein, augmentation importante, et le changement climatique n'y est peut-être pas pour rien. Alors, les praticiens, sinon, vont vous opposer un deuxième argument, en disant, oui, mais si tu compostes à froid, ta décomposition sera trop lente, en fait, parce que ben, voilà, tu auras moins d'humidité, tu auras moins de bactéries qui vont attaquer les matières, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Ben, là encore, c'est un lieu commun, parce que si vous avez plus d'animaux, plus de champignons qui sont présents dans le milieu, ben, le biologiste dira, bah, a priori, la matière elle va aussi être décomposée. Simplement, ça va être décomposé par une flore bactérienne embarquée qui se trouve dans l'intestin des animaux, par exemple, au lieu que ça se fasse principalement par des bactéries libres dans le milieu. Mais il n'y a pas de raison que ce soit plus lent, en fait. Et puis, enfin, les praticiens vont vous dire, bon, de toute façon, ça fait un compost de mauvaise qualité, point final. Il y aura trop de matière carbonée, par exemple, il y aura trop de... Alors, vous allez avoir un déséquilibre. Bon, moi, j'ai cherché dans la littérature des exemples qui pouvaient vraiment montrer à quel point un compost froid était bien plus mauvais qu'un compost chaud, et j'ai rien trouvé. Du coup, quand on est un scientifique et qu'on n'aime pas trop les parce que, eh ben, on essaie d'aller un peu plus loin que le bout de son nez. Du coup, très modestement, je me suis lancé dans la modélisation, la conception d'un nouveau paradigme pour le compostage partagé, le compostage bas d'immeuble ou en établissement. Ça, c'est vraiment l'échelle qui me semble la plus pertinente à travailler au jour d'aujourd'hui, parce que c'est là où la France a le plus de retard. Le compostage collectif est très, très en retard en France. On a à peine quelques dizaines de milliers de composteurs collectifs qui ont été déployés depuis 5-6 ans. Et alors qu'à côté de ça, le compostage domestique, individuel, lui, il n'est pas du tout sur la même, soutenu de la même façon. On a plusieurs millions de composteurs domestiques en France. Et comme il n'y a aucune science du compostage digne de ce nom et de savoir-faire du compostage qui est diffusé dans la population, le drame, c'est que la grande majorité de ces composteurs individuels, au lieu d'être des puits de carbone, sont en fait des sources de carbone. Ils sont émetteurs profondément de méthane à cause de mésusages. Là, l'ADEME, pour le coup, avec le réseau Compost Citoyen, a mené une étude il n'y a pas très longtemps qui a montré qu'il y avait une forte proportion, la majorité en fait des composteurs qui étaient domestiques, qui étaient inspectés dysfonctionnels. Alors, comment faire mieux? Eh bien, la bio-inspiration ici, c'est le point de départ. Je suis parti du fondamental. Pour moi, la litière de forêt, c'est vraiment le modèle à suivre en la matière si on veut composter efficacement à froid. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de résoudre un à un tout un ensemble de problèmes posés par le compostage à chaud. Et pour cela, ben, j'ai pensé au Lego. Je me suis dit, tiens, le compostage chaud, finalement, c'est une tour fabriquée en Lego. Et donc, pour construire un nouveau paradigme, il va falloir déjà démonter la tour principale pour récupérer les pièces de base et voir comment on peut les assembler différemment. Donc, un premier élément, c'est, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je vais brasser en profondeur un composteur. C'est terminé, quoi. Je ne veux plus participer à ce massacre de cloportes, de vers de terreau et puis de perce-oreille. Du coup, comment faire si on n'aère plus en profondeur par des brassages profonds? Eh bien, il va falloir partir sur une aération passive. Donc, ça commence par maximiser la présence des invertébrés pour qu'ils bioturbent au maximum. On va essayer aussi de structurer davantage le compost avec de la matière sèche pour créer des petites poches d'air, des micro-cavités, de façon à ce que le compost ait un réseau de galeries qui va assurer l'aération passive, comme le ferait la superposition de branchages et de feuillages dans une litière. Il faut aussi beaucoup plus d'ajours au niveau du composteur pour que l'air circule davantage. Et puis, favoriser le développement de communautés, évidemment, d'invertébrés abondantes et diversifiées pour avoir donc des belles densités de population et que tout cela soit parfaitement à l'équilibre. Évidemment aussi, si vous arrêtez de brasser en profondeur, il y a un risque fort de tassement. Donc, pour pas que ça se tasse de manière trop importante, eh bien, j'en suis venu à me dire qu'il valait mieux limiter la hauteur de la litière de biodéchets. Pour cela, je me suis calé sur la hauteur de litière maximale que j'ai trouvée dans la littérature en ce qui concerne les forêts tempérées françaises. On raconte dans certains peuplements montagnards qu'on peut arriver jusqu'à près de 80 cm d'épaisseur de litière. Vous qui êtes des spécialistes du sol, vous aurez peut-être d'autres exemples encore plus importants. J'ai considéré quand même déjà 80 cm, c'était une couche importante de biodéchets en formation. Ça veut dire que quand même, la surface qui est sous tout ça, subit quand même une pression importante. Et donc, j'ai même décidé de réduire un peu cette couche, pas plus que 50 cm en fait, de hauteur de biodéchets dans le composteur. D'autres adaptations, je passe assez rapidement là-dessus, hein, pour limiter la montée en température. Il y a des éléments que l'on vient déjà de citer, mais il y a aussi un petit brassage très superficiel. Hein. En fait, le brassage ici, je parle plutôt de grattage de surface. On va juste mettre en contact les biodéchets frais avec les biodéchets plus anciens qui ont commencé à composter. Et pour limiter la montée en température, qui est d'origine bactérienne, ben, il suffit simplement de placer les bactéries dans des conditions de milieu qui sont défavorables pour elles, c'est-à-dire d'avoir un compost sec, plus sec qu'un compost de composteur chaud, un compost qui aurait moins de 50% de taux d'humidité. Et là, ben, vous limitez, vous freinez totalement le développement bactérien libre. Et du coup, il n'y a plus cette montée en température, en tout cas dans des proportions bien moins importantes. Bon, soyons précis, hein, il y a toujours une légère montée en température due à l'activité biologique, mais on n'est plus à plus 10, plus 15, plus 20 degrés par rapport à la température extérieure. Là, dans la méthode que j'ai développée, on est au maximum à plus 5, plus 10 degrés grand maximum par rapport à la température extérieure. Bon, après, il a fallu aussi trouver des astuces pour compenser cette prédiction qui était que la matière allait se décomposer plus lentement. Eh bien, là, il y a aussi il y a des astuces, hein, c'est-à-dire notamment d'encourager les écarts de température, puisqu'on sait, il y a des travaux qui ont été menés sur la manière dont la minéralisation du carbone s'effectue dans les litières forestières. On sait que quand on va avoir des grands écarts de température saisonniers, eh bien, ça accélère la décomposition de la matière. Il y a aussi un truc absolument essentiel, et j'ai eu le déclic en regardant Sébastien Salvador, qui est là, intervenir dans une formation que j'anime, la Maison pour la Science, une formation en compostage, en établissement scolaire. Sébastien est intervenu à ma demande pour parler du sol à ses profs, et je me suis dit, mais oui, c'est bien sûr. Dans un composteur chaud traditionnel, on passe notre temps à bouleverser complètement la stratification. Or, bah, si la stratification existe dans une litière forestière, c'est qu'elle a pleinement son sens fonctionnel. Donc, la stratégie ici, c'est surtout de ne pas perturber cette stratification, de la laisser la plus intacte possible. Et puis, il y a aussi un petit côté technique, hein, c'est qu'un bon compost, c'est un compost qui va tendre vers un ratio C sur N de 10 en fin de processus de maturation, donc au bout de 10 à 12 mois. Et donc, comment faire pour tendre vers ce ratio? Eh bien, ça va dépendre des ressources en carbone que l'on peut utiliser. Et notamment, ben, en tamisant le compost, par exemple, et en réutilisant le broyat, on peut agir en fait sur la teneur en carbone assez facilement de son compost. Et donc, on peut tendre vers cet idéal que l'on cherche. C'est un peu technique, mais les praticiens vous diront évidemment que si vous avez mis du broyat de chêne en mélange avec vos déchets de cuisine, eh bien, un an après, vous avez encore des gros éclats, des gros morceaux qui sont présents. Alors que si vous êtes parti sur un bois beaucoup plus tendre, ben, il n'y aura plus rien après. Alors voilà ce que j'ai inventé avec quelques amis. Donc, on a un gros composteur en bois qui est constitué de deux parties. En coupe, ici à droite, vous pouvez voir donc des zones qui vont recréer la séparation, la compartimentation qu'on trouve dans la hêtraie, donc avec une zone dite de futaie et une zone de litière. Donc, c'est important ici de considérer que moi, je vais travailler avec le sol. Je ne vais jamais installer mon composteur n'importe où. Et en tout cas, je vais toujours mener des actions qui sont réfléchies par rapport au sol sur lequel on met le composteur. Si je mets ça sur le composteur, si je le mets sur un sol en béton, on a fait des essais, ça peut tout à fait fonctionner. À ce moment-là, ça m'obligera d'entrée de jeu à mettre une litière de 15 à 20 cm de compost bien mûr dans le fond du bac d'apport, le bac de dépôt. Si je suis sur un sol naturel où il y a une belle vie, il y a une belle diversité, on a des beaux turricules qui sont bien présents, un sol bien souple, eh bien là, on pourra laisser un peu plus faire la nature. Mais en tout cas, au bout d'un mois de fonctionnement, il y a toujours une phase d'ensemencement où je viens apporter moi-même tout un mix d'organismes qui permettent au composteur de prendre un bon départ et de partir sur une communauté bien équilibrée. Donc là, ici, l'astuce est tout simple, hein. Vous avez donc chaque grand bloc du compost tout est composé de trois cadres en bois superposés les uns par rapport aux autres. La plupart de ces cadres n'ont pas de plancher, excepté un seul cadre qui va soutenir une réserve de broyat de branches. Donc le broyat va se trouver au-dessus du compost en maturation. Et les biodéchets frais sont déposés dans la partie dépôt, donc à droite ici, sur l'illustration de droite. Donc on jette nos biodéchets en mélange avec du broyat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va jamais monter à plus de 50 cm de hauteur dans ce bac de dépôt. Alors dans un composteur traditionnel, on aurait monté jusqu'en haut. Donc au bout de 50 cm, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, et c'est pour cela qu'on a conçu le compost tout ainsi, on va démonter le compost tout, il est modulaire, et on va le faire basculer, enfin plutôt faire venir la réserve de broyat de branches par-dessus les biodéchets les plus frais, de manière à ce qu'ils puissent tranquillement rentrer en maturation. Et le compost en maturation, lui, est laissé sur place. On essaye d'éviter de le transporter. Il est laissé sur place, il va prendre la pluie, il va prendre le gel, il va prendre toutes les intempéries. Donc ça va contribuer à finir la maturation avec des conditions naturelles et on pourra planter directement dans le compost formé. Donc pour résumer, l'originalité qui nous a valu la reconnaissance de l'INPI sur la brevetabilité, c'est que ici le composteur se déplace et le compost reste sur place. Alors que dans une approche traditionnelle, c'est le compost qui fait des voyages et le composteur reste toujours au même endroit. Donc ces moments de déplacement, c'est ce qu'on appelle les rotations. Voilà à quoi ressemble mon composteur. Vous voyez que c'est un grand composteur en bois. Les premières générations que vous avez sous les yeux ont été fabriquées par une association de lutte contre les inégalités et de réinsertion professionnelle. Ça s'appelle Entraide et Solidarité. C'était fabriqué en bois de palette, de la palette de transport qui avait été découpée, palette lourde, palette épaisse, hein, mais sans aucun traitement chimique. Uniquement un traitement autoclavage au départ. Et nous, on n'a rien rajouté de plus. Ce compost tout, il subit tous les 4 à 6 mois une rotation, un déplacement. Hein, donc ces différentes étapes vous sont expliquées sur la petite illustration ici. Si on suit par exemple le module violet hein, que l'on voit à gauche, qui est au sol. Ce module violet, il entoure du compost mûr, quasiment mûr. Donc, pour pouvoir utiliser ce compost, il va falloir que je passe par 8 étapes, hein, de manière à libérer ce module violet. Et donc, si vous suivez attentivement, si vous n'êtes pas daltonien, contrairement à moi d'ailleurs, eh bien, vous pouvez voir que dans l'illustration 8 et l'illustration finale, le module violet a changé de position. Il fait partie maintenant du bac d'apport, de dépôt, et il est en position intermédiaire, ce qui permet aussi au bois de sécher et de durer plus longtemps du coup. Donc en changeant comme ça tous les 4 à 6 mois l'emplacement des modules, on évite que les planches pourrissent, ce qui allonge la durée de vie du composteur. Et puis vous voyez qu'on a libéré ici le compost, on peut planter directement des petites tomates cerises, des courges, des patates, tout ça pousse très bien. Et puis vous voyez aussi que le compost ici, il a fait une rotation d'un quart de tour. Le composteur, pardon, il a fait une rotation d'un quart de tour. Donc, on peut imaginer comme ça que tous les 6 mois, par exemple, on va tourner le dispositif d'un quart de tour. Donc, au bout de 2 ans, on sera revenu sur la petite parcelle de compost. Et ce n'est pas gênant parce qu'en 2 ans, en fait, le compost se sera tassé. Il aura perdu plus de 50% de son volume. Et du coup, on aura à peine quelques centimètres de surélévation. Donc, ce n'est absolument pas gênant. On peut réinstaller le composteur par-dessus. Et même ça. J'ai observé que ça accélérait en fait la décomposition des biodéchets puisque la faune et le système microbien est déjà en place. Donc c'est très très rapide en fait. Voilà quelques illustrations puisque derrière le compost tout, il y a aussi une idée qui est communaliste. Hein, c'est un projet communaliste de recréer du commun dans l'espace public. Il y a un but qui est clairement social et environnemental. Donc le compost tout, moi je l'ai conçu avec des amis. Et nous avons confié à l'association que je préside par ailleurs, qui s'appelle Zéro Déchet Touraine, le soin de développer l'innovation. Et à ce jour, Zéro Déchet Touraine a déjà implanté une quarantaine de composts dans des collèges, dans des écoles, dans des entreprises. On a des grandes entreprises comme la SNCF ou Storengy qui nous ont pris des composts. On en a aussi sur des places de village, dans des places de quartiers de ville, etc. Et donc, pour répondre aussi à tout un ensemble de critiques, hein, moi j'ai pu observer vraiment que c'était vraiment des oasis de vie. On a une magnifique abondance, une magnifique biodiversité qu'en tant que chercheur, je vais m'atteler à caractériser. Parce que clairement, j'ai plusieurs typologies de communautés dans mes composts. L'espèce dominante, celle qui se plaît le plus, hein, c'est Porcellionides prunosus, qui est un cloporte qui est plutôt méridional. Donc, il apprécie les zones assez sèches. Mais on trouve également des gros coléoptères saprophagophages, hein, comme des rhinocéros, Oryctes nasicornis. On a beaucoup de lucanes aussi. Toute une faune de décomposeurs de bois. On a aussi parfois des ectomycorhizes qui nous permettent d'assécher le compost Et là, d'ailleurs, je suis sur la piste de ce coprin-pile, hein, qui fait de magnifiques réseaux de mycélium. Et je crois que c'est vraiment une espèce qui est très intéressante pour ma pratique parce que ça m'assèche la moindre goutte de flotte, ça pompe tout. Et du coup, j'ai un compost qui reste bien sec. Et puis, vous voyez que les plantes apprécient ce support de culture, hein, puisque les tomates, là, elles poussent même spontanément à travers les ajours du composteur, alors même que on est ici sur du bitume directement. Et donc, ça se plaît très bien. Potimarron, des courges, des patates, tout ça, c'est très, très abondant. Alors, juste sur les aspects scientifiques, quelques résultats. Donc, on a pu comparer les montées en température de composteurs traditionnels chauds avec nos composts tout. À gauche, vous avez des relevés de température, température extérieure, les points blancs, température de surface, les points verts, et puis température à 20 cm de la surface, les points noirs. Et donc, on voit que ces composteurs chauds, très souvent, on dépassait la limite de 40 degrés, et pas uniquement en période estivale d'ailleurs, hein. C'est plutôt voilà, sur le printemps et l'automne, on a eu des grosses montées en température à plus de 50 degrés, alors que ce type d'événement est beaucoup plus rare en compost tout. Vous voyez qu'il y a un point qui est au-dessus de 50 degrés sur l'ensemble des mesures qu'on a réalisées, et ça a été dû à un mésusage des utilisateurs qui n'ont pas respecté notre consigne de ne pas mettre de litière animale, qui sont trop riches en azote et qui font flamber le compost dès qu'il y a des excès d'azote. Si on calcule les moyennes, on est à peu près à 35 degrés en moyenne à 20 cm de la surface pour les composteurs chauds et 30 degrés en moyenne pour le compost tout. Alors le différentiel n'est pas énorme, c'est juste parce que notre préoccupation principale, c'était déjà de tester le compost tout, l'ergonomie, les usages. Et on ne s'est pas trop intéressé à rendre les composteurs chauds super chauds. Je pense qu'avec une meilleure pratique sur le compostage chaud, en brassant plus profondément, etc., en contrôlant mieux la température, on aurait pu les faire flamber davantage et donc accroître le différentiel. On a fait des analyses de compost, donc tout cela grâce à un financement de la région Centre-Val-de-Loire, de l'ADEME et également du syndicat mixte Touraine Propre. Il y a eu également des fonds qui nous ont été donnés par l'IUT de Tours et par une association étudiante, APNE. Donc ces résultats, ces analyses qui sont très coûteuses, hein, puisque chaque échantillon de compost, c'est 700 euros de frais d'analyse. On a voulu être le plus exhaustif possible, donc on a fait des analyses d'indices de stabilité de matière organique, de tests de phytotoxicité. Et puis, comme vous allez le voir aussi, la recherche de polluants. Alors,
Bastien, excusez-moi,
ouais.
si je peux vous demander d'accélérer, parce que vos 1500 secondes
C'est
sont
passé déjà? Je
dépassées.
suis à
Oui,
1501 secondes.
vous
D'accord, je
êtes
vais
à
droit au
pas,
but.
j'ose pas dire à combien vous êtes, mais très largement au-dessus de
Oh,
1500, s'il vous plaît.
désolé.
Est-ce que vous pouvez aller vers la conclusion?
Oui, carrément, carrément. Voilà.
Merci.
La conclusion. Bon, déjà, le compost produit, il est parfaitement conforme à la norme française NFU 44051. Y compris, comme vous pouvez le voir, sur la recherche de pathogènes. Alors, évidemment, on n'a pas recherché tous les pathogènes du monde, hein. La norme ne se réfère en fait qu'à quelques catégories de pathogènes. En tout cas, on est conforme. Et pour tout vous dire, des composteurs chauds qui ont été menés à Blois, eh bien, sur les 5 échantillons issus de ces composteurs de Blois, eh bien, on n'avait pas du tout la conformité qui était atteinte, par exemple. Donc, c'est un argument de plus pour me dire que la montée en température des composteurs ne permet pas une hygiénisation particulière. Les volumes traités, bon, on a traité pas mal de biodéchets et on a été utile pour les utilisateurs, plus de 50 kilos de biodéchets par utilisateur et par an. Et la caractéristique principale que vous pouvez voir, hein, sur le graphe de droite, c'est que le compost issu de compost tout, il perd très peu de structure après le processus de compostage, en fait, parce que le broyat de branche va bien garder sa structure. Au niveau économique, on est très compétitif, puisqu'ici, on a un modèle économique qui revient à environ 200 euros la tonne de biodéchets traités par an. Et si on ramène ça au coût de traitement d'une tonne d'ordures ménagères résiduelles, eh bien, c'est un peu plus cher. Et puis, si on prend les modèles économiques classiques d'associations qui accompagnent le compostage collectif, c'est en moyenne pratiquement 5 fois plus cher en France que le modèle économique qu'on a réussi à mettre au point. Puis, les gens sont satisfaits. Vous voyez, une note de 4,5 sur 5. Bon, on n'a pas eu énormément de répondants non plus, hein. Mais surtout, moi, ce qui me fait plaisir en tant que, là, cette fois-ci, militant associatif, c'est que pour la plupart des gens, le compost tout est identifié clairement comme la première marche vers une démarche zéro déchet, une démarche personnelle qui permet de réduire fortement ces déchets. Du coup, en conclusion, je dirais que le compost tout, c'est une solution qui plaît. On a signé une convention avec l'Éducation nationale pour en installer dans une quarantaine d'établissements scolaires en Indre-et-Loire. C'est une solution de compostage qui se situe finalement en intermédiaire entre ce qu'on peut trouver en forêt, hein, les litières de type mulle modère, et puis un mort, hein, donc un humus très très brut. C'est quelque la matière, l'amendement qui est produit est intermédiaire à ce type de formation. Et puis, comme on est en France, un petit coup de gueule pour terminer, comme on est en France, vous savez que l'innovation technique et technologique, elle a beaucoup de mal à percer dans notre pays. C'est quand même assez compliqué d'être soutenu, non pas pour lancer le projet. Au projet, on a eu pas de problème à être financé, mais c'est après dans l'acceptabilité politique de l'innovation. Donc, la phase de pré-industrialisation, dans notre cas, a été un succès, mais notre fabricant a dû fermer parce que, tout simplement, les commandes publiques ne sont jamais venues. Et donc, là, on se lance sur une troisième version du compost tout, bien plus qualitative, et j'espère qu'on va enfin pouvoir être soutenu par les pouvoirs publics. Voilà, je vous remercie pour votre attention.